On va parler maintenant des prisonniers palestiniens libérés. Les autorités israéliennes ont donc annoncé que 14 otages retenus dans la bande de Gaza doivent être libérés aujourd'hui contre 42 prisonniers palestiniens. Hier, 39 Palestiniens sont sortis des prisons israéliennes en échange de la libération des 13 otages israéliens. David Rigoulet-Rose, que sait-on de ces 39 Palestiniens, Palestiniennes qui sont sortis de prison hier ?
Il y a 24 femmes et 15 jeunes mineurs, c'est-à-dire moins de 18 ans. Enfin, ils sont, c'est pas des très jeunes mineurs, mais en tout cas, ce sont des personnes qui n'ont pas de sang sur les mains, parce que c'était un critère essentiel pour les Israéliens. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été partie prenante, par exemple, dans des manifestations de lancer de cocktails Molotov ou de choses comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de personnes qui sont incriminées pour des assassinats. Il y a une liste de 300, en fait, qui a été établie. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, une partie de ces personnes d'être affiliées soit au Hamas, au djihad islamique, au FPLP, etc. Donc, il y a des affiliations politiques, idéologiques. Mais effectivement, le critère premier, c'est quand même celui de ne pas remettre en liberté, parce que c'est aussi un problème pour la société israélienne. Il faut avoir à l'esprit que lors de l'élargissement des prisonniers contre Gilad Shalit, 1027, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont repris le combat à grande échelle, et pas des moindres, notamment Yahya Sinwar. Donc, c'est effectivement quand même quelque chose qui est fondamental comme critère de détermination pour ceux qui possiblement peuvent être effectivement libérés.
Alors, on va justement s'arrêter un instant sur cette liste des 300 noms, des 300 Palestiniens libérables avec vous, Chloé. Alors, c'est vrai déjà qu'ils sont très jeunes.
Effectivement, sur cette liste de 300 prisonniers palestiniens, 267 sont des jeunes hommes. On parle de jeunes de moins de 19 ans, voire même d'adolescents. Il y a aussi 33 femmes ou jeunes femmes. Et en fait, il n'y a qu'une poignée de personnes majeures ou adultes. Sur cette liste de 300 noms, la moitié sont affiliés au Hamas, au djihad islamique, au Fatah ou encore au Front populaire. L'autre moitié, finalement, semble avoir agi de son propre chef. Autre information, la plupart de ces détenus ont été arrêtés après 2021. Beaucoup ont même été arrêtés à cette année, en 2023, et beaucoup également ont été arrêtés mais pas encore jugés. Alors, pourquoi ont-ils été arrêtés ? Eh bien, il y a différents motifs, notamment les tentatives de meurtre, le soutien au Hamas, le jet de pierre sur des soldats israéliens ou encore le jet d'engins incendiaires ou la possession d'armes.
Merci beaucoup, Chloé. Ces prisonniers palestiniens libérés, où vont-ils aller, Guillaume Ancel ?
Alors, pour moi, ils sont plutôt rendus en Cisjordanie. C'est ce que j'ai compris à ce stade, mais je ne suis pas complètement sûr de la destination de tous ces prisonniers.
En fait, il n'y aurait que 5 destinations de Gaza. Tout le reste serait effectivement...
Plutôt vers la Cisjordanie. Oui. Ce qu'on voit bien dans la description qu'on a fait, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt politique pour le Hamas. Ce ne sont pas des gens importants pour le Hamas. Ce sont vraiment des civils qui ont joué un rôle à un moment plus ou moins conscient, parce qu'ils n'ont pas été jugés pour la plupart et que par conséquent, la justice israélienne n'a pas pu déterminer quel était leur niveau d'implication et leur rôle. Mais il n'y a pas de personne de poids.
Il n'y a pas de gros poissons, comme on dit.
Il n'y a pas de gros poissons que le Hamas aurait pu exiger. On pense là vraiment à des gens qui ont joué un rôle, des hommes et des femmes qui ont joué un rôle et qui, pour l'instant, sont sortis, d'autant plus que, finalement, ce que Israël réclame en premier, ce sont des femmes et des enfants. Et par conséquent, ils mettent en symétrie le type de prisonniers qui sont prêts à relâcher. J'insiste quand même sur un point, parce qu'hier, on a été un peu ambigu sur le sujet. Il y a eu 13 otages israéliens restitués, mais aussi 11 otages thaïlandais et philippins. Je suis étonné que le gouvernement Netanyahou en ait fait si peu de cas, parce que pour les Thaïlandais, j'ai eu un message aujourd'hui d'un ami thaïlandais, c'est une très bonne nouvelle pour les familles de voir récupérer des gens qui ont été pris en otage par le Hamas.
Alors, pour revenir sur les prisonniers palestiniens, David, on dit qu'il n'y a pas de gros poissons. Et du coup, quel est l'intérêt pour le Hamas ?
Ah bah, c'est une manière pour le Hamas de montrer qu'il a été en situation de peser pour faire libérer. D'ailleurs, on l'a vu avec le spectacle hein, qui a accompagné leur libération. C'était effectivement une adhésion d'ailleurs explicite quasiment au Hamas, qui a pris beaucoup d'importance en Cisjordanie, de manière inversement proportionnelle au délitement en fait de la légitimité de l'autorité palestinienne. Ce qui en soi soulève des problèmes évidemment pour la suite. Mais en tout cas, il y a effectivement l'idée que finalement on peut créditer le Hamas du point de vue des Palestiniens d'avoir entamé une logique transactionnelle qui conduit à ces libérations et qui peut conduire à d'autres libérations. La vraie question de fond, ça sera pour les gros poissons. Et là, on va retrouver la question des otages militaires, notamment israéliens, dans la bande de Gaza. Parce que c'est ça. Là, ça va être beaucoup plus... ça sera moins facilement transactionnel, justement. Et je peux, le curseur sera à un autre niveau, vraisemblablement. Là, comme vous le disiez, on est plutôt sur le ratio 1 à 3, mais avec des élargissements de potent équivalents, on va dire, des deux côtés, en termes de profil.
On va regarder justement ce ratio, on va regarder les chiffres. Le ratio dans cet accord entre Israël et le Hamas, un otage israélien retenu à Gaza contre la libération de 3 Palestiniens détenus en prison en Israël. Et lors du dernier échange de prisonniers entre Israël et le Hamas en octobre 2011, le soldat franco-israélien Gilad Shalit avait été libéré 5 ans après son enlèvement, contre la libération de 1027 détenus palestiniens, certains d'ailleurs, plusieurs centaines, purgés des peines de prison à vie. Guillaume Ancel, c'est vrai, quand on regarde ces chiffres, comment expliquer ce ratio si différent?
Alors attention, le ratio contre le soldat israélien qui avait été changé contre plus de 1000 Palestiniens est dans un contexte complètement différent. Mmh. C'est-à-dire que c'était devenu un point de focus pour la société israélienne et un symbole, un soldat militaire israélien qui était gardé captif. Et donc, ils étaient prêts à tout mettre sur la table pour le récupérer. Juste pour donner un ordre d'idée, actuellement, on estime qu'Israël détient à peu près 7000 Palestiniens en prison. Donc déjà, un tel ratio ne serait évidemment absolument pas imaginable et il n'aurait pas de sens. Par contre, ce que les Israéliens veulent montrer de leur côté, c'est qu'une vie israélienne est tellement précieuse qu'ils seront prêts à mettre plusieurs prisonniers, en face, mais en même temps, tout le monde a un doute, du côté israélien d'ailleurs comme du côté Hamas, du nombre d'otages qui sont réellement détenus et en vie sur la bande de Gaza. Parce que même le Hamas ne le sait pas. Le Hamas a la plus grande difficulté à faire un point exact, d'autant que ses lignes de communication ont été largement abîmées par l'offensive israélienne et que tout ça est dispersé dans une organisation qui est profondément chaotique. Ce qui veut dire qu'à chaque négociation, pourquoi Israël exige d'avoir une liste jour par jour? Parce qu'en fait, le Hamas n'est pas totalement sûr de ce qui va sortir. Et c'est aussi pour ça, comme Thierry nous le rappelait tout à l'heure sur place, il est interdit de donner la moindre indication parce que jusqu'au moment où les otages sont libérés, on ne sait pas qui ils seront réellement. Et il n'est pas question de dire à des familles « Ah ben finalement, le membre de votre famille ne sera pas libéré aujourd'hui, ce serait un drame humain inacceptable. » Donc, on reste d'une prudence incroyable jusqu'au bout, parce qu'on est dans une situation chaotique. Il faut quand même rappeler que ces otages sont détenus sur un champ de bataille. Et donc là, on n'est pas en train de libérer quelqu'un qui est entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et on va se mettre d'accord à quelle heure on va l'emmener sur le pont entre les deux. Là, il faut être sûr, jusqu'au dernier moment, que la personne est détenue, qu'elle est encore en vie. Et je rappelle que l'armée israélienne a sorti, en particulier du nord de la bande de Gaza, des dizaines de corps dont elle pense que ce sont des otages décédés. Ils sont en train de les identifier. Même le Hamas n'est pas sûr de qui est décédé parmi ces otages. Et donc, la négociation, elle se fera toujours étape par étape, par petits groupes. Et c'est pour ça que, dans cet accord, en fait, à chaque fois, on voit bien que ce sont des toutes petites tranches, alors qu'ils auraient pu dire 5 jours de trêve, 50 otages, 150 otages en face. Non, Israël montre qu'elle est prête à mettre dans la balance jusqu'à 300 détenus palestiniens. Et évidemment, le but de l'accord, c'est qu'il se prolonge au-delà des 4 jours qui sont prévus actuellement, 50 otages, parce que le Hamas était d'accord sur le fait qu'on pourrait prolonger en fonction de trêve. Mais en fait, même eux ne savent pas exactement ce qu'ils ont à mettre sur la table.
Pourquoi Israël a accepté cet échange? Est-ce que c'est la pression de l'opinion publique?
La pression, elle est très forte. Ce qu'on peut noter, c'est qu'au début, les gouvernements israéliens voulaient éviter le caractère publicitaire, justement, de cette question des otages, parce qu'ils savent très bien à quel point c'est sensible dans la société israélienne. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher. Il y a eu une pression accrue, continue des familles, relayé évidemment avec la caisse de résonance de toute la société israélienne. Donc, ils ont été obligés de tenir compte, effectivement, de cette pression sur laquelle d'ailleurs le Hamas a joué, évidemment, ça fait partie de sa stratégie, pour prendre en compte, en étant à chaque fois sur une des crêtes, c'est-à-dire la position, ça a été de dire que il fallait faire les choses simultanément, c'est-à-dire que c'est la pression militaire aussi, le maintien d'une pression militaire qui rendrait possible une logique transactionnelle et que les deux n'étaient pas dissociables. Donc c'est compliqué à gérer parce que évidemment il y a un moment où la pression militaire doit se relâcher pour que la transaction soit faite, ce qui est le cas en ce moment. Mmh. Et la question de la reprise des combats est posée. Comme vous évoquiez, normalement il y aurait possiblement une reconductibilité 10 otages pendant 6 jours supplémentaires, mais il y a des réticences de Salle parce que justement la question du délai était problématique. Ils avaient refusé 5 jours, donc ils avaient admis 4 jours, et donc la stratégie du Hamas, c'est aussi éventuellement de prolonger, évidemment.
Il nous reste 40 secondes, Guillaume.
C'est très contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, Salle aurait tout intérêt à continuer sa stratégie d'étouffement, celle qu'elle a décidée contre le Hamas, avec une trêve. Et le gouvernement israélien a montré qu'il a une victoire tangible en faisant libérer des otages. Donc les deux sont parfaitement contradictoires. C'est un équilibre très difficile à trouver. Ce qu'on espère tous, c'est que finalement, c'est une espèce de lumière au bout du tunnel de cette guerre et qu'on pourrait enfin commencer à discuter de la sortie de ce tunnel de la guerre.
Et on suivra bien sûr l'évolution de la situation. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Chloé Giraud d'avoir été là.